Il est beau de se retrouver ensemble ce matin pour fêter la Vierge Marie dans ce fabuleux mystère de son Assomption. Pour cela, par l'imagination, accompagnons-la dans cette ascension, vers son Fils, vers la Trinité tout entière. C'est exactement le même principe que pour l'ascension du Seigneur. On se souvient, Jésus entraîne ses disciples sur le mont des Oliviers, près de Béthanie plus exactement. Et là, après ses dernières recommandations, il s'élève au-dessus du sol de quelques mètres, puis une nuée vient et le fait disparaître aux yeux des disciples, et ensuite la nuée elle-même disparaît. Et les disciples ne voient plus que le beau ciel azuré. C'est à la fois très simple comme événement et c'est totalement surnaturel. C'est l'incarnation. L'Assomption se fait sur le même modèle. On peut imaginer peut-être pas l'élévation, mais peu importe. Le principe, c'est cette disparition progressive mais rapide du corps de la Vierge Marie. La tradition nous dit que les apôtres étaient réunis autour d'elle. C'est ce que le tableau ici nous figure. Et il a été calqué sur l'Ascension, donc ils ont surélevé la Vierge Marie. Mais on n'en sait rien, parce qu'aucun récit ne nous donne le détail de cet événement extraordinaire. Donc ils étaient autour d'elle, nous dit la tradition de l'Église, les apôtres. Et ils vécurent bien une expérience similaire à celle de l'Ascension qu'ils connaissaient déjà pour l'avoir vécue auparavant avec le Seigneur Jésus. Donc, Marie à la fois connaît l'expérience de la mort, c'est ce que nous dit le dogme, mais en même temps, elle en est préservée. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette affirmation. Elle connaît l'expérience de la mort, c'est ce qu'on appelle la dormition. Elle ferme les yeux à la vie de ce monde, et fermant les yeux, elle les ouvre du même coup sur l'éternité. Un clin d'œil suffit pour que la Vierge Marie passe d'un monde à l'autre. En même temps, la mort est définie comme une séparation de l'âme et du corps. Or, la Vierge Marie n'a pas connu la séparation de l'âme avec son corps. Donc, elle n'est pas morte, techniquement, théologiquement parlant. Et pourtant, elle a vécu cette expérience, car personne ne peut passer dans l'autre monde sans la connaître. Mais elle ne la connaît pas comme nous autres, nous la connaîtrons, comme ceux qui sont déjà morts l'ont connue. Cette séparation douloureuse de l'âme et du corps, le corps ne ressuscitant qu'au dernier jour. Notre âme seule paraît devant Dieu. La Vierge Marie, elle, est entraînée. Et on imagine, avec son âme et son corps, et comme Jésus avait fait son ascension préalablement dans la gloire, eh bien, elle est entraînée et tout un cortège angélique se forme autour d'elle. Des anges la portent, ils forment un char glorieux pour l'élever progressivement jusqu'au trône de Dieu. On imagine l'archange Saint Gabriel ouvrant la marche et une immense haie d'honneur faite de tous les anges du ciel, de droite et de gauche, de haut et de bas, entourant la Vierge Marie lors de son Assomption. Et elle arrive devant le trône divin, et là le Christ, la prend par la main, la couronne, reine des anges, et la place à sa droite. Voilà, c'est la partie cachée de l'Assomption de la Vierge Marie que nous pourrons contempler dans la gloire. Maintenant, le sens de l'Assomption, tel que nous pouvons le comprendre, nous qui sommes encore sur la terre, ce dogme, il remonte très haut, pas le dogme lui-même, mais la croyance, la conviction du passage de la Vierge Marie en tant qu'assomption, c'est-à-dire avec son âme et son corps, on a des traces dès le VIe siècle de notre ère, de cette conviction des croyants. Mais le dogme est très tardif, puisqu'il remonte simplement à 1950, c'est le pape Pie XII qui l'a formulé, après avoir écrit aux évêques du monde entier. Et seules quelques exceptions, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est un nombre énormément réduit, deux ou trois, vous voyez, cet ordre-là. Tous ont répondu qu'il n'y avait aucun problème à proclamer ce dogme, parce qu'il fait partie de toute la tradition de l'Église. Donc ce dogme est une vérité de foi. C'est pas seulement maintenant une conviction, c'est une vérité à laquelle nous adhérons en même temps que les autres vérités de foi. Marie, elle nous montre le chemin du ciel. C'est le sens de l'Assomption. C'est très vertical, l'Assomption, c'est aller au ciel. Et Marie nous confirme ainsi que notre véritable maison, c'est le ciel. Nous avons peur de la mort, c'est notre corps qui a peur de la mort. Notre âme, elle, désire ce retour, ou plus exactement, cette découverte de la maison éternelle que le Christ nous a préparée pour nous. Marie, en ce sens, est la mère de la Sainte Espérance, la Sainte Espérance du salut. Et nous la prions ainsi, nous prions beaucoup, ma Vierge Marie, pour tous les agonisants, pour tous ceux qui sont aux portes de la mort, et nous avons raison, pour les malades, et nous devons le faire aujourd'hui en particulier. L'Apocalypse, Jean, dans son Apocalypse, nous montre la Vierge Marie comme étant un grand signe dans le ciel. Elle se métamorphose, la Vierge Marie. Elle apparaît d'abord comme l'Arche d'Alliance. On comprend, l'Arche d'Alliance, c'est ce qui portait la gloire divine. Elle a porté le Verbe de Dieu. Elle est cette arche merveilleuse et unique dans l'histoire du salut. Mais elle est aussi cette femme qui enfante le Verbe de Dieu, une femme lumineuse, radieuse, toute glorieuse, et donc toute pure qu'est l'Immaculée Conception. C'est cette femme que saint Jean nous donne à voir. Et ce grand signe nous dit aussi sa mission. Elle est gardienne de la foi, c'est le sens de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était un signe tangible pour la foi des Juifs. Il y avait à l'intérieur trois choses. Il y avait un peu de manne qui rappelait la pérégrination de l'Égypte, un peu de manne qui avait été conservée dans l'Arche d'Alliance. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui avait fait de lui le chef de sacerdotal d'Israël, et c'était sa tribu, la tribu d'Aaron, qui recevait le sacerdoce. Et puis, un troisième élément, je me souviens même plus là. Peu importe, vous vous en souviendrez à ma place. Donc, cette arche d'alliance s'accrochait à cette arche d'alliance la foi d'Israël. Et de même, Marie est gardienne de la foi. On la voit au pied de la croix, alors que tous les disciples sont dispersés, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Comment le Fils de Dieu peut-il trouver la mort au lieu de la victoire? Marie est là au pied de la croix, comme gardienne de la foi de l'Église. C'est pourquoi elle représente aussi l'Église dans l'Apocalypse. Cette femme radieuse, nous avons un témoignage dans le Magnificat de ses propres paroles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mais elle dénonce l'orgueil humain fondamentalement. Elle rappelle que Dieu disperse les superbes, les puissants et les riches. Et cela, en cela, la Vierge Marie nous met en garde contre ceux qui veulent s'égaler à Dieu, défier Dieu comme le fait le dragon, comme ceux qui cultivent la volonté de puissance, de domination. Et enfin, ce que la richesse suggère, indique symboliquement, c'est l'autosatisfaction. Être autosatisfait, n'avoir aucun manque. Or ça, c'est tout le contraire de la créature spirituelle, c'est tout le contraire de l'humble servante qu'a été la Vierge Marie. Il nous manque, notre frustration à nous, c'est le manque de Dieu, le manque de vie éternelle. Donc l'Immaculée est vraiment, dans ce passage de l'Apocalypse, opposée au dragon. Elle est son antithèse. Le dragon, c'est celui qui refuse le bonheur du ciel. La Vierge Marie nous montre que nous devons au contraire désirer ce bonheur. Nos contemporains désirent le bonheur terrestre, mais ne désirent pas le bonheur du ciel. Ils sont en communion sans le savoir avec le dragon de l'Apocalypse. Nous devons, c'est un devoir de créature spirituelle, désirer les biens éternels. Les biens matériels passent, on en fait usage, mais justement cet usage servira de matière à notre jugement moral à la fin des temps. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'attacher ni idolâtrer les choses de la terre, les biens de la terre. Le dragon, lui, au contraire, nous invite à faire l'inverse, à rentrer dans l'idolâtrie du matérialisme. Le dragon, lui, il est caractérisé par la colère. Et la colère, c'est le contraire de la paix. La paix est un attribut du royaume des cieux, c'est pas quelque chose que nous avons en nous-mêmes. Ça nous est donné par Dieu. Le dragon est solitaire, il est condamné à la solitude parce que il a fait de lui-même sa propre fin. Malheur à l'homme qui fait de lui-même sa propre fin, sa propre finalité, son propre but dans l'existence. Celui-là est condamné à une solitude, non seulement sur terre, mais une solitude éternelle dans l'autre monde. Et enfin, le dragon exprime la frustration parce qu'il ne sera jamais égal à Dieu, malgré sa révolte, malgré tous ses efforts. Il ne sera jamais semblable à Dieu. Et il est condamné ainsi à une frustration éternelle. Inversement, l'Immaculée, elle, trouve sa joie dans l'état créatural, dans la dépendance envers Dieu, dans la reconnaissance de sa souveraineté. Elle trouve sa joie dans sa petitesse. Elle sait que Dieu l'aime à cause de cela. De même que nous aimons les enfants qui sont si petits, si démunis. Dieu nous aime tous parce que nous sommes, lorsque nous sommes plutôt, à l'image de l'humble servante que fut la Vierge Marie. L'humilité est en elle et pleine de fécondité. C'est pourquoi elle a mérité de donner naissance au Verbe de Dieu. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous déposons toutes nos intentions, nos prières pour ceux que nous connaissons, pour nos familles et pour nous-mêmes. Et nous recommandons à Marie d'être là à l'heure de notre mort, gardienne de la foi et mère de la Sainte Espérance.